Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Très bien, jusqu'à tout maintenant. Tout va bien jusqu'à maintenant. Donc, on est de retour après ce pépin technique totalement imprévu. C'est la définition d'un pépin, oui. Mais c'est assez imprévu. Pour parler de son tout premier one-man show après une absence en humour et un retour sur scène, on parle avec l'humoriste Alexandre Champagne pour la grande désorganisation. Salut Alexandre.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super bien, écoute. Ben c'est ça, on te parle ce matin.
Ça va bien, votre console est pétée.
Ouais, non, c'est ça.
Ça va correct. Donc, tu seras du côté de Magog en fin de semaine, donc juste à côté, c'est à Sherbrooke, après avoir mis l'humour sur pause, on va dire ça comme
ouais.
Ça, début 2011-2012, tu es maintenant de retour avec un premier one-man show sur scène. Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a donné envie de remonter sur scène?
J'avais besoin d'argent.
OK.
Juste avant, il faut que tu m'expliques de quoi. Le vieux clocher de Magog, c'est à Sherbrooke?
Non, il est à Magog.
OK, c'est ça. Parce que t'as dit du côté de Sherbrooke, fait que là, je t'ai mêlé. Oui, qu'est-ce qui m'a donné envie de remonter sur scène? Ça faisait. Ben, j'ai toujours eu envie d'être sur scène, mais quand je suis sorti de l'école de l'humour en 2007, on a, avec Jo Roberge, on a écrit Contrat de gars.
Ouais.
Puis, au lieu de faire du stand-up, on a commencé à faire de la vidéo pour le web. Puis, on trouvait ça vraiment intéressant. Après ça, on s'est suivis ensemble. On a écrit Testé sur des humains à TVA. On a fait quelques spectacles ensemble. Puis, quand l'aventure Contrat de gars était sur le bord de finir, moi, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. Je les ai pris en photo.
Ouais.
Puis, j'ai trouvé ça tellement le fun que j'ai jamais arrêté de faire ça pendant plusieurs années. Puis, j'ai mis l'humour de côté parce que le stand-up, à l'époque, m'intéressait pas vraiment. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'opportunités d'en faire. Je trouvais que le chemin vers le succès pour une personne qui faisait de l'humour était assez assez rigide. Fait que je me voyais mal exploiter ma créativité là-dedans. Puis, je sentais pas que j'avais, un, quelque chose à dire, puis deux, la discipline pour aller jusqu'au bout. Et là, avec les années, j'ai développé un paquet d'affaires. J'ai eu toutes sortes d'aventures qui sont arrivées. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, je pense que j'aimerais ça revenir à la scène pour optimiser l'humour, le stand-up. Puis ça faisait, écoute, j'ai évolué beaucoup sur les écrans, là, mm-hmm. sur Internet. Puis ça me manquait de passer une soirée avec des gens dans une salle, d'aller aux quatre coins du Québec. C'est vraiment des choses que j'avais envie de faire. Fait que c'est un peu égoïste, mais c'est par envie d'être sur un stage puis d'avoir un beau moment avec les gens qui viennent voir le show.
J'ai autour de la table mes collègues Jérémy et Chloé qui ont des petites questions aussi. Jérémy en premier.
Oui, donc c'est ça, tu as monté un premier one-man show. De base, c'est un énorme défi. Est-ce que tu ouais. dirais avoir pris une pause avant, ça a été plus difficile, mettons, de créer un one-man show ou ça l'a aidé justement dans le processus créatif?
Non, ça a vraiment. Ben, en fait, je pense que ça a aidé dans le processus créatif parce que quand j'ai fini l'école de l'humour, j'avais 21 ans. Je considère pas que moi, à 21 ans, j'avais l'étoffe d'une personne qui pouvait faire autant de spectacles puis qui avait assez de choses intéressantes, qui avait vécu assez de choses intéressantes pour partager ça.
C'est tough, ça, dire ça.
Comment tu dis?
C'est tough, ça, dire ça. J'ai pas vécu assez de choses intéressantes.
Ben, non, mais je pense que j'étais assez lucide pour le savoir. Je pense que j'étais drôle. J'avais une essence comique. Mais je sentais pas que j'avais assez de substance pour aller de l'avant. Ça, c'est mon expérience personnelle. Il y a des jeunes humoristes aujourd'hui, les gars, les filles qui sont sur scène présentement, qui ont un talent hallucinant. Puis c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est très édifiant. C'est motivant de voir que ce milieu-là s'est beaucoup assaini, ça a beaucoup changé. Puis de voir toutes sortes de monde qui performe, moi, je trouve ça vraiment, vraiment encourageant. Mm-hmm. Mais c'est ça, ça m'a plus aidé que d'autres choses parce que ça m'a permis de vivre des affaires, d'observer des trucs, de devenir plus mature aussi. Là. Quoique je ne suis pas à un niveau optimal, mais au moins, je suis plus qu'avant, tu sais.
Ouais, dirais-tu que le succès web, puis aussi, tu avais quand même bien performé dans tes premiers galas juste pour rire. Je me souviens de Toune d'amour qui avait quand même
oui.
bien fonctionné à l'époque. Dirais-tu que c'était comme un peu trop soudain, peut-être, comme popularité ou comme succès, peut-être?
Pas vraiment, parce qu'à l'époque, les médias sociaux, c'était absolument pas ce que c'était aujourd'hui. Toune d'amour, j'ai réalisé cette semaine que ça faisait 18 ans que j'avais fait ça.
Ouais, hein?
dans ma tête, c'est hier. J'ai aucune notion du temps, là. Je sers à rien. Mais j'ai réalisé que ça faisait 18 ans. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Je m'en fais encore parler aujourd'hui. J'en fais un petit bout dans mon spectacle comme succès souvenir, mais ma carrière avait pas décollé en tant qu'humoriste. C'était un peu un tour de force de faire un gala pendant que j'étais encore à l'école de l'humour à cette époque-là. Mais en même temps, ça a pas été. Je te dirais que Contrat de gars a plus pogné que ça, mais encore là, c'était assez niché, tu sais. Puis c'est avec les années qu'on a réalisé l'étendue du succès de Contrat de gars quand tu vas à Rouyn-Noranda pisser dans un ultramar puis il y a deux personnes qui te reconnaissent de Contrat de gars de là 17 ans. Ouais. OK, il s'est passé de quoi? Mais non, je pense que ça a rien changé. Puis pour être honnête, avec le recul, j'aurais pas été prêt à vivre un plus gros succès que ça ou une popularité plus intense si j'avais pas les qualités pour ça à ce moment-là. Okay.
Ben quand même. Ce spectacle-là, ça s'appelle La Grande des Organisations, comme je le disais. Tu abordes certains thèmes, dis-je bien, comme la paternité, ton parcours qui t'a mené jusqu'à ce show-là. Qu'est-ce qui t'a comment t'as choisi tes sujets pour le spectacle?
J'ai choisi ce qui était le plus proche de moi, comme par exemple mon diabète, qui est une charge mentale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens qui ont la condition. Au Québec, c'est 10% de la population, puis il y en a peut-être 200 000 qui savent pas qu'ils l'ont. Puis je trouvais ça important d'en parler pour, premièrement, enlever les tabous, puis aussi défaire un peu les mythes de ce que c'est le diabète pour les gens. Mais évidemment, tout ça, en rendant ça comique, j'ai décidé aussi de parler de la langue française. L'art oratoire, c'est une belle façon de préserver le français au Québec, puis de le faire voyager aussi. Je trouve ça important de parler de ça, l'espèce de paradoxe. Là. On aime vraiment beaucoup notre langue, mais on punit les gens au Québec qui savent pas nécessairement la parler instantanément quand ils arrivent ici. Je fais quelques allusions, évidemment, trois fois par jour. J'ai pas vraiment le choix. Je parle de la paternité, je parle du masculinisme aussi, évidemment, à cause de Contrat de gars. Puis le deux tiers du show est en musique aussi. J'ai ma guitare sur le stage. Puis pour moi, quand il y avait des rassemblements dans la famille ou avec les amis, il y avait toujours quelqu'un quelque part qui avait une guitare. Puis on chantait, mais on avait surtout vraiment du plaisir. Fait que j'explique un peu mon parcours en musique. Moi, je joue de la musique depuis que j'ai 6 ans. Ça fait 33 ans. Fait que j'explique ça. J'explique qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique, comment on peut s'amuser avec. Fait que c'est assez désorganisé, mais c'est organisé parce qu'évidemment, je l'ai écrit. Là.
Oui.
Mais je me permets sur scène d'éclater mon imagination. Puis je pense que c'est ça qui est bien le fun.
Tu l'as mentionné, Contrat de gars, qui a été ce qui t'a rendu public, j'ai envie de dire, dans l'œil du public à tout le moins. Comment est-ce que tu comparerais peut-être ton style d'écriture de l'époque avec ce que tu fais aujourd'hui, mettons?
C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Je fais juste crier mes gags pendant 1h15, puis à la fin, je m'évanouis. C'est super le fun. Non, ben c'est sûr que c'est différent. Tu sais, Contrat de gars, c'est un thème d'impro. Là. Fait que c'est que des stupidités basées sur la virilité puis l'absurdité, tandis que mon spectacle, évidemment, c'est moi dans la vraie vie. Fait que c'est un personnage versus moi. C'est sûr que c'est différent, mais je réfléchis de la même façon. T'sais, j'essaie toujours de pousser l'absurdité des choses le plus loin possible. Je te dirais que c'est le seul dénominateur commun qu'il y aurait entre les deux.
OK. Rodage, 28 février, donc c'est vendredi. Oui, c'est vendredi.
C'est vendredi.
À Magog, qui est une salle, c'est ça, qui est vraiment reconnue pour les humoristes qui passent par le vieux clocher de Magog. Comment tu te prépares à cette soirée-là?
Je fais pas vraiment la différence. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver en forme puis de livrer la marchandise au public qui a fait le choix conscient de venir voir mon show. J'essaie d'être à la hauteur le plus possible, mais je vais t'avouer, je suis vraiment fébrile parce que le vieux clocher de Magog, j'en entends parler depuis Isabelle Boulay en 94. Fait que c'est comme une salle mythique. Pour moi, j'avais vraiment hâte d'aller jouer là. Je pense que ça a été booké sur le tard un peu dans ma tournée. Fait que je l'ai su comme par après. T'sais, moi, je me concentre sur un spectacle à la fois. Puis là, quand j'ai réalisé que j'allais jouer là, j'étais vraiment, vraiment content. Fait que je me prépare pas différemment. J'ai toujours le même niveau d'énergie et de bonheur, évidemment, d'aller jouer devant les gens. Fait que c'est là que j'en suis.
Ben, tu l'as dit aussi tout à l'heure, bon, il y avait peut-être un peu moins de possibilités de faire du rodage ou en tout cas de te produire sur scène au début quand tu as commencé. Aujourd'hui, ben, il y a multiples salles qui font des soirées d'humour. Pour toi, le rodage, comment tu vis cette étape-là de commencer à présenter ton show?
J'aime ça, j'aime vraiment ça parce que j'essaie des choses. Puis moi, j'ai pas vraiment d'orgueil dans la vie. Fait que quand je fais des numéros, j'essaie des blagues qui fonctionnent pas, j'ai presque plus de fun à ce moment-là parce que d'arriver avec une grande candeur puis là de faire la joke puis tout le monde est comme moi non c'est pas drôle. Je trouve ça hallucinant. Je me dis waouh, il y a pas grand monde qui vit ça. Puis moi c'est sûr que je préfère quand mes blagues fonctionnent là, évidemment. Puis dans le spectacle toutes les blagues maintenant fonctionnent parce qu'on les a testées puis on les a écrites, réécrites, on a tout fait. Mais je dois avouer que ces moments-là, c'est du pur bonheur pour moi parce que, puis aussi les gens sont indulgents, les gens pardonnent, ils savent que c'est du rodage, qu'on essaie des choses, qu'on est là pour travailler. Je trouve que c'est un énorme privilège de savoir que les gens viennent, sont comme, on sait que c'est pas la version finale puis qu'il y a une couple d'affaires qui fonctionne moins bien, mais on est là quand même, on encourage quand même les artistes à se développer puis ça, c'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment une chance. Fait que le rodage, écoute, j'étais supposé faire 12 spectacles, puis finalement, je vais être rendu à 45.
Okay, fait que jamais.
Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Jamais en 2007, j'aurais pu faire 45 spectacles avec le très peu de notoriété que j'avais. Puis, je pense pas, si ma mémoire est bonne, que le rodage existait dans sa forme actuelle il y a 18 ans.
C'était moins commun.
C'était moins commun, tu sais, puis il y avait plus de travail en amont, puis les humoristes arrivaient sur scène avec quelque chose de beaucoup plus fini, mais là, le circuit des salles permet aux artistes de se développer plus aisément, puis ça, c'est une grande chance qu'on a.
Ben écoute, ce sera à découvrir, comme je le disais, ce vendredi 28 février, du côté du Vieux-Clocher de Magog pour la grande des organisations, le premier one-man show d'Alex Champagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Alex.
Ça me fait plaisir, mais là, tu disais tantôt que Chloé avait une question, je l'ai même pas entendue.
Ben, j'ai comme scoopé sa question un petit peu.
Non, mais en fait, moi, j'ai une question pour terminer comme ça. Je me demandais, c'est quoi la chose que tu as le plus appris sur toi-même dans toutes tes années de carrière, puis tes retours, tes changements de. Tu sais, tout ça, on dirait que je suis curieuse de t'entendre parler de ça.
Ben, ça va sonner quétaine, là, mais ce que j'ai appris sur moi, c'est que quand je pense que j'en ai plus, il m'en reste encore.
Ah,
puis
c'est bon,
j'ai tout le temps eu peur d'aller au-delà de mes limites. T'sais, je me suis tout le temps... J'ai jamais été aussi courageux que je pensais. Puis il y a des gens qui peuvent dire, « Ouais, mais c'est courageux de te lancer dans le vide, d'avoir parti une entreprise, d'avoir fait ci, ma fondation. » Oui, c'est de la pure folie, honnêtement. Mais ces projets-là m'ont pris des années avant de les amener à terme parce que j'avais peur. J'avais peur de pas être parfait. Tu sais, je procrastine beaucoup puis tout ça. Fait qu'on dirait que avec la tournée, parce que quand j'ai fait la tournée de l'école de l'humour, on a fait une cinquantaine de spectacles puis je me suis dit, jamais je vais faire ça dans la vie. Impossible que je fasse ça. Mais les conditions étaient extrêmement différentes. On était 14 artistes. On avait un numéro chaque, on bougeait de gauche à droite partout au Québec. J'ai adoré l'expérience à cause des gens avec qui j'étais, mais en tant qu'individu, je sentais pas que j'avais du plaisir à faire ça. Puis là, tout d'un coup, je regarde derrière au mois de février, puis je suis comme ça fait un an que je suis parti en tournée avec ça, puis j'ai fait 45 spectacles, puis j'ai même pas dépensé 1% de mon énergie encore. Tu sais, fait que quand je pensais que j'en avais plus, j'en avais encore vraiment beaucoup. Fait que c'est ça que j'ai appris sur moi. Le fait que j'ai plus de discipline que je pensais, j'ai plus d'endurance. Puis ça, c'est ultra motivant quand tu vois que tu développes tes qualités. C'est plus ça que je trouve cool avec le spectacle. T'sais. C'est qu'est-ce que moi, j'en tire personnellement au niveau des qualités puis au niveau de la personne que je deviens. T'sais. Je vais avoir 40 ans cette année. Et puis je me sens comme un jeune adulte de 20 ans. Là. Fait que C'est une très bonne question. C'est ça que j'ai appris sur moi.
Mais c'est une belle introspection, je trouve.
Merci, Stéphane.
Ben Alex, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ta patience plaisir. Et notre console.
Ben voyons donc, c'est la moindre des choses. Vous êtes super gentil.
Merci à toi. Écoute, on fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ 88.3.